Ce qui nous donne la force de désobéir, de ne pas nous résigner à ce pire qui devient chaque jour le plus sûr, de garder intacte une capacité de révolte, c'est, pour reprendre l'expression de Primo Levi, la honte du monde. La honte est un composé de tristesse et de rage. On ne la dépasse pas, quoi que puissent promettre les managers de l'âme. On la transforme en lui donnant la forme de la colère. Frédéric Gros est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son nouvel ouvrage intitulé « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, ce sera Léo Ferré chantant le poème d'Aragon.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et m'éparpille. Et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver est bien court. Que faut-il faire de mes jours? Que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule. La pièce était-elle ou mon drôle? Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent?
Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle ouvrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu.
Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent?
Il est d'autres soldats en ville, et la nuit montent les civils. Remets du rimmel à tes cils, Lola, qui t'en ira bientôt. Encore un verre de liqueur. Ce fut en avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plongea son couteau. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leurs baisers au loin les suivent? Des soleils révolus.
Votre première honte, vous en souvenez, Frédéric Gros?
Je m'en souviens pas parce que je pense que le propre de la honte, c'est d'abord quand il s'agit d'expériences cuisantes, on n'est pas encore dans la dimension politique, mais d'expériences infantiles et cuisantes, je crois qu'elles vont dessiner en nous des poches de silence, des espèces de petits trous de sens et qu'on va se construire et qu'on va se construire dessus. Je suis pas sûr qu'on puisse revenir aux toutes premières hontes, mais ce qui est sûr, c'est qu'elles C'est qu'elle laisse des traces parce que la honte, elle est liée au souvenir et à la mémoire. Et c'est peut-être ce qui nous fait mémoire, la honte. C'est peut-être ça qui nous, qui fait qu'on est des êtres temporels, que pour nous, le temps a un sens, c'est qu'on a eu honte. Oui.
Quelquefois, ce ne sont pas les parents qui font honte. C'est quelquefois les autres enfants.
Ce sont les autres enfants qui peuvent être cruels, d'ailleurs, très cruels. Et parfois même, on peut avoir honte de ses parents. La honte a presque un côté généreux. Je veux dire par là qu'elle fonctionne à l'imagination. C'est ça qui fait sa saveur politique. C'est que par rapport, par exemple, à la culpabilité, dans la honte, on imagine beaucoup. On se met à la place de l'autre. On se dit et qu'est-ce qu'il va penser si, est-ce que, qu'est-ce que j'aurais fait si. Donc on est dans des imaginations où on ne cesse de se décentrer. Quand je dis que la honte est et généreuse, je veux dire qu'elle nous fait échapper à notre égoïsme et qu'en même temps, elle nous attache à cette espèce de stupeur. Mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Mais ce moi tremble, quoi, et ne m'appartient plus.
Alors que se passe-t-il dans ce décentrement quand nous ressentons de la honte? Or, nous avons tous ressenti de la honte, nous allons connaître encore de la honte. Ne vivons-nous pas dans une société qui pratique la honte comme une sorte d'impératif catégorique ?
Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, avec la montée en puissance des réseaux sociaux, par exemple, il y a des opérations de faire honte qui sont absolument terribles, qui peuvent même détruire des individus, des jeunes enfants, etc.
Alors à cet égard, dans votre livre passionnant, Frédéric Gros, vous rappelez cette histoire qui s'est passée il y a pas très longtemps d'une jeune femme qui a pris un avion pour aller en Afrique du Sud et qui, au moment du voyage, ne savait pas ce qui allait l'attendre et qui a été détruite complètement et par la honte qu'on lui a assigné, faisait qu'elle n'était plus, ce n'était plus possible qu'elle soit vivante.
C'était plus possible qu'elle soit vivante parce qu'il y a un certain régime de honte. Encore une fois, ce qui est fascinant avec la honte, c'est que alors que la culpabilité est très monolithique, on sait ce qu'on sait. Enfin, c'est un sentiment, je veux dire, qui est très plein, très massif. La honte a des régimes d'existence très diversifié, et il y en a un qui est du côté de la honte sociale, de l'opprobre, du jugement, c'est-à-dire la manière dont je suis dénigré, discrédité en public, et j'allais dire quand ce sont des torrents de tweets et
cette jeune femme, elle a vu le tort de mettre un texto pas politiquement correct.
Oh ouais, non, un texto vraiment limite, hein, qui consistait à dire, dans mon souvenir, c'était à peu près, oui, je vais en Afrique du Sud, oulala, il y a le sida, mais non, je rigole, je suis blanche. Enfin, vraiment, quelque chose de très limite et qui fait rire personne, mais simplement ça a déclenché, alors même que elle s'endormait tranquillement dans son avion qui la dirigeait vers le Cap, ça a déclenché un tsunami numérique. Et quand elle se réveille et qu'elle ouvre son téléphone, son image publique, sa personne, c'est-à-dire nous-mêmes tels qu'on existe un peu chez les autres, était liquéfiée. Et c'est vrai que ça peut être ça aussi.
Mais vous diriez, Frédéric Gros, honte sur elle?
Je dirais, si vous voulez, je dirais plutôt, franchement, elle a pas honte. Franchement, elle a pas honte de dire des choses comme ça, mais à partir du moment où...
L'expression populaire, mais t'as pas honte. Pas honte de dire ça.
T'as pas honte de dire ça. Mais si on est dans un honte sur toi, honte sur elle, alors là, je trouve qu'on est dans autre chose. C'est-à-dire qu'on est dans la manière dont on va stigmatiser une seule personne et déverser sur elle un déluge de moqueries, de haine, qui nous permet surtout d'échapper à notre propre monstruosité. C'est ça le problème de se faire honte collectif. Il y a différents faire honte, comme il y a différents...
Mais il y a un faire honte qui est détestable. Collectivement.
Eh oui, c'est ça, c'est qu'on se paye des virginités morales à faible prix, etc. Et on échappe en même temps à cette essence pure, à ce noyau de diamant qu'il y a dans la honte, j'allais presque dire dans la bonne honte, qui est justement la colère. Là, on participe à une espèce de haine collective, c'est une curée, une alali, etc. Et ça nous permet de nous dédouaner à bon compte.
Alors, vous êtes philosophe, Frédéric Gros, vous avez déjà publié de nombreux livres. D'ailleurs, vous avez eu la gentillesse de venir pour plusieurs d'entre eux. Vous avez écrit un livre qui s'intitule « Désobéir » et vous êtes aussi un spécialiste de Michel Foucault, mais aussi un amoureux de la marche. Est-ce que pour vous, la pensée, c'est corporel? La pensée, c'est aussi la compréhension des émotions? Et la philosophie est-elle pour vous un art de la compréhension de ce qui est le plus incompréhensible en nous, à l'intérieur de notre être humain?
Ouais, ce serait ça, ce serait d'aller chercher. Je suis pas un philosophe métaphysicien, spéculatif, etc. Ça existe et c'est tout à fait légitime. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'aller au cœur des expériences, au cœur d'un certain nombre d'expériences de vie qui sont des expériences de tension, et de trouver les moyens de les décrire, donc de pouvoir les comprendre et de pouvoir soit les nourrir, soit s'en débarrasser, etc. Mais je suis d'accord avec cette approche qui consiste à dire qu'au fond, la philosophie, elle se nourrit moins des textes que des expériences. Ouais, ça, je trouve ça très important.
En tant que spécialiste de Michel Foucault, vous avez essayé et vous avez réussi d'ailleurs à cartographier les mouvements les plus profonds de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et vous dites dans ce nouvel ouvrage que finalement, la honte est en ligne directe avec la désobéissance. Pourquoi ?
Alors je pense, parce qu'assez vite il faut qu'on arrive à faire quand même une grosse distinction pour moi, hein, qui est un peu massive, mais que
la bonne honte, la mauvaise honte.
J'allais presque dire ça, mais c'est un peu moralisateur.
Oui, c'est un qualificatif de morale.
Voilà, donc je dirais plutôt il y a des hontes qui nous font obéir et des hontes qui nous font désobéir, justement. Il y a des hontes qui nous font obéir, qui sont toutes ces micro-hontes qui sont le produit d'humiliations, de remarques un peu désobligeantes, par lesquelles
on ferme sa gueule.
Et ben, on ferme sa gueule, on revient vers soi et on se dit, mais oui, c'est vrai que je suis nul, que j'ai pas assuré, etc.
On prend sur soi, comment dire.
On prend sur soi. Et
donc la honte, ça c'est la honte négative, si
je veux dire. Ah, ça c'est la honte négative,
qui peut détruire.
Ce que j'appelle. Elle peut détruire, c'est la honte tristesse. Et on pourrait même dire que tout ce qu'on a appelé le néolibéralisme depuis quelques décennies a été une formidable fabrique de honte. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire passer comme discours quand même aux gens misérables, pauvres, qui se sont pas très bien sortis de cette extraordinaire affaire et compliquée qu'est la vie, c'est que t'as pas dû y mettre du tien. Enfin bon, il y a un peu de paresse quand même.
T'avais qu'à traverser la rue,
t'avais qu'à travailler, à avoir un peu plus d'ambition, etc. Tout ce discours, c'est-à-dire le néolibéralisme, non pas comme, j'allais dire, entreprise économique, mais comme dispensateur éthique de micro-honte, a été, voilà, ces hontes-là, elles nous font obéir.
Dispensateur éthique de micro-honte, pouvez-vous expliquer?
Alors, dispensateur éthique de micro-honte, c'est exactement ce que je voulais dire quand je disais que on me fait remarquer que si j'y arrive pas, c'est quand même un peu de ma faute. On me fait remarquer que si je trouve pas de travail, c'est que je dois pas mettre assez d'énergie.
Individualisation de la responsabilité.
Exact. Oui, sous le couvert de ce qu'on appelle la responsabilité, la dignité, on va dispenser l'idée qu'après tout, si je suis nul, c'est que je le cherche bien d'une certaine manière. Alors ce discours-là, tu l'as bien cherché, c'est un formidable...
Mais ça s'est accéléré durant la dernière décennie, selon vous.
Selon les deux, trois dernières décennies. C'est-à-dire qu'au fond, il s'agissait de mettre en accusation moins des structures objectives de ce qu'en termes marxistes, on appelait les rapports de production, etc., que d'aller à l'intérieur de chacun et leur demander, mais enfin, bouge-toi. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Et contre celle-là, c'est vrai qu'il existe une autre honte, mais qu'on entendait bien quand on écoutait Léo Ferré tout à l'heure chanter. Enfin, c'est cette extraordinaire parole « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Et dans le « ainsi », il y avait quand même « mais ils n'ont pas honte. On n'a pas honte de faire ce qu'on fait. On n'a pas honte de laisser le monde dans cet état, etc. » Et cette honte-là, elle fait apparaître par rapport à ce jour sombre de la tristesse, du mépris de soi-même, de la désestime qui détruit, vous l'avez dit, je crois que vous avez employé le terme, qui est une espèce d'acide, de poison de l'âme, il existe un autre visage de la honte. Et il me semble qu'il faut vraiment le considérer aussi, et que j'entends dans la manière même dont, dans d'autres textes, Léo Ferré peut dire « mais dis, t'as pas honte ». Le « t'as pas honte » qui consiste à aller réveiller un peu les gens et leur dire « mais qu'est-ce qu'on est en train d'accepter ?» Et cette honte-là, oui, elle nous fait désobéir en ceci que ce jugement terrible sur l'état du monde et sur ce qu'on est prêt à accepter, est quand même le moteur des transformations intérieures et peut-être même plus en avant de ce qu'on appelait autrefois les révolutions.
Vit-on dans un régime aujourd'hui qui justement passe beaucoup de temps et d'énergie, consciente ou inconsciente et subconsciente, à nous faire honte de nous-mêmes?
Alors là, oui, c'est vrai que c'est pour ça que la situation...
Alors qu'avant, c'était peut-être la fierté, justement, après la libération... Il y avait l'espoir, la révolte, le souvenir de la résistance, comme on a entendu avec le poème d'Aragon tout à l'heure.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était la fierté. Et maintenant, on est dans une époque, j'allais dire, très, très compliquée, très, très bigarrée, très, qui peut apparaître comme très paradoxale, où à la fois, on nous dit, n'ayez plus honte de vous-même, acceptez-vous, et c'est très bien, parce qu'il s'agit de sortir de cette honte, tristesse, etc. Et en même temps, on vous dit, mais enfin, il n'y a plus de honte, tout le monde s'étale, etc. Donc, on est dans une époque qui, si on rajoute à ça ce qu'on appelait les opérations de shaming numérique, etc., on est dans une, alors que la culpabilité était vraiment très centrale, on est dans une époque qui vit la honte, ou plutôt les hontes.
Alors vous faites remarquer dans cet ouvrage passionnant que vous publiez, donc « La honte est un sentiment révolutionnaire », qu'il y a effectivement la force économique du néolibéralisme qui nous accule souvent à une honte collective, mais qu'il y a aussi tous les nouveaux réseaux sociaux qui finalement mettent en avant l'individualité la plus extrême, donc la fierté d'être soi-même, mais qui en même temps ruine toute espérance de construction du soi, pour soi.
Alors, ce qui est un peu compliqué, c'est difficile pour moi de dire, mais non, il faut pas... Bien sûr qu'il faut s'accepter, bien sûr qu'il faut être, j'allais dire, content d'être soi-même. Mais cette espèce de frontière fragile entre l'acceptation tranquille, sereine de soi et l'autosatisfaction dégoulinante, je veux dire, elle est poreuse. Et le moment où ça devient, moi j'ai bonne conscience, je suis persuadé d'avoir fait le mieux, je suis content de moi, je suis fier de moi, mais au sens d'une espèce d'autosuffisance, c'est en même temps une source de violence extraordinaire pour les autres et contre les autres. Et ces gens-là, oui, ceux qu'on appelle les éhontés, parce qu'après tout cet ouvrage n'est jamais qu'une tentative d'explorer ce sens trop oublié et trop perdu de la honte qu'on retire de l'adjectif éhonté. Ceux qui n'ont pas honte. Et ceux qui n'ont pas honte, ce sont effectivement ceux qui ont une conscience parfaite, bonne d'eux-mêmes. Et là, oui, et là, il faudrait leur faire un peu honte, dire à des Jeff Bezos qui s'offrent des espèces de petits voyages dans l'espace en pleine pandémie et qui reviennent avec les yeux mouillés pour parler de l'état de la Terre.
Mais voilà. Ils nous sont proposés comme des modèles, ces gens-là.
Voilà, ce sont des modèles éhontés pour moi. Et il faut faire ressurgir ce sens-là d'une certaine j'allais presque dire dignité. Là aussi, vous allez me dire c'est très moral, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment par cette honte-là, qui est une honte politique, de faire bouger les choses. Après tout, quand la honte est un sentiment révolutionnaire, c'est même pas de moi. C'est une citation de Marx. Et si on la poursuit, alors c'est très beau parce qu'il commence la honte. Il est en train de lire un journal. Hein, il est sur une péniche. Il lit un journal et il s'aperçoit qu'on vient de voter ceci, cela. Et il se dit mais j'ai honte, c'est pas possible que mon pays soit prêt à accepter de telles dispositions aussi scandaleuses. Et il a écrit « La honte est un sentiment révolutionnaire ». Elle est une colère, c'est-à-dire que son génie, c'est d'avoir tout de suite vu qu'il y avait espèce de diamant de tristesse dans la colère et de pas de se laisser emporter dans l'idée que c'est que de la tristesse, etc. Une colère rentrée, et il finit en écrivant « Et si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion » prêt à bondir. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a de la honte dynamite, qu'il y a de la honte étincelle. Et c'est celle-là dont je voulais essayer de parler aussi, même s'il faut faire place évidemment à toutes ces hontes qui sont des poisons. C'est du poison, mais c'est aussi de l'étincelle.
Marx prononçait ces mots-là magnifiques au moment où la révolution était espérée et possible. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
Alors aujourd'hui, on est effectivement dans une époque, on a vécu l'époque des révolutions et on est entré dans l'ère des catastrophes. C'est-à-dire qu'alors que la révolution dessinait une espèce d'horizon politico-moral pour les sujets qui se disaient « mais ça va aller mieux, il y a le progrès, on va changer les choses, etc. », ce qui se dessine là, c'est la catastrophe et ça ouvre un nouveau champ de possibles, en tout cas d'autres possibilités, mais c'est vrai que c'est plus la révolution, c'est la catastrophe. Avec même là, il faudrait faire sonner non plus la phrase de Marx sur la honte, mais celle de Walter Benjamin quand il dit « la catastrophe, c'est quand tout continue comme avant ». C'est-à-dire c'est la catastrophe et pourtant, on n'espère qu'une seule chose, c'est que l'ancien monde revienne après la pandémie, etc.
Avez-vous l'impression qu'on vit la catastrophe ?
Ah oui, j'ai l'impression que depuis une ou deux décennies, nous sommes rentrés dans un monde qui se laisse aimanter et par cet horizon d'une catastrophe possible. C'est-à-dire ce qui devient
la pandémie est bien arrivée en plus, donc elle fournit le terreau de ce catastrophisme non éclairé.
À la fois, oui, c'est ça, à la fois le terreau, en même temps le laboratoire d'expérience, et voilà, on rentre dans une nouvelle ère où ça n'est plus l'accomplissement et l'épanouissement total de l'humanité qui est en vue, mais sa destruction, sa disparition, etc.
Quel est le rôle du philosophe, alors, dans cette période troublée et troublante?
Son rôle, c'est effectivement par rapport, parce que ces nouvelles situations vont évidemment faire se multiplier ce qu'on appelle les pensées faciles, les idéologies un peu irrationnel. Alors c'est pas qu'il faille remettre de la raison, mais seulement penser afin d'ouvrir de nouvelles possibilités. Oui, ce serait de poser un bon diagnostic et de nous mettre en face à nos propres responsabilités.
Je vous propose d'écouter un homme qui a beaucoup compté pour vous et qui compte encore beaucoup, et dont nous pouvons lire les ouvrages. Vous le citez à l'intérieur de ce nouveau livre, il s'appelle Gilles Deleuze, et il avait fait un abécédaire avec Claire Parnet. Je vous propose d'écouter au mot R comme résistance. C'est une archive INA de 1996, Gilles Deleuze.
Moi je crois que à la base de l'art, il y a cette idée que, ou ce sentiment très vif, une certaine honte d'être un homme qui fait que l'art, ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, il ne cesse pas de tuer la vie. La honte d'être un homme, l'artiste, c'est celui qui libère une vie puissante, une vie plus que personnelle. C'est pas sa vie. Qu'est-ce que c'est que, et là c'est pas du tout des choses abstraites, qu'est-ce que c'est qu'un grand personnage de roman? Un grand personnage de roman, c'est pas un personnage emprunté au réel et même gonflé. Charlus, c'est pas Montesquieu, hein. C'est pas Montesquieu, même gonflé par l'imagination géniale de Proust. Hein. C'est des puissances de vie fantastiques. Hein. C'est des puissances de vie fantastiques si mal que ça tourne, tu comprends? Un personnage de roman, il a intégré en lui des mondes, c'est une espèce de géant, quoi. C'est une espèce de géant, c'est une exagération par rapport à la vie, mais c'est pas une exagération par rapport à l'art. Ben là, il est production de ces exagérations. Et c'est par leur seule existence que c'est déjà de la résistance.
Nous venons d'entendre R comme résistance, donc dans l'abécédaire de Gilles Deleuze. Et si j'ai bien compris la pensée de Gilles Deleuze, ce n'est pas sûr, Frédéric Gros, mais il y a la honte d'être un homme et il y a la possibilité de libérer la vie en chaque homme. Et pour pouvoir la libérer, l'artiste, en fait, est une sorte de premier de cordée, de celui qui va aller jusqu'au bout au nom de tous les hommes pour libérer cette puissance de vie. Mais êtes-vous d'accord avec cette idée de Gilles Deleuze que nous avons tous, finalement, et nous partageons cette idée de la honte d'être homme?
Bah, disons que, ouais, la honte d'être un homme, mais au sens...
Ça veut dire quoi, alors? Bah,
ça veut dire quoi? Il existe un sens de l'humanité. Si, par exemple, je sais pas, prenez la fin du colonel Chabert de Balzac, où on a ce notaire d'Herville, mais qui voit passer devant lui, des tas de gens, mais qui ne pensent qu'à essayer d'avoir le maximum et de voler l'un, de piller l'autre, etc. Et cette réflexion que vous pouvez avoir, mais aussi en lisant les romans de Céline, eh ben oui, là on touche le fond de l'humanité. Vous voyez que là, quand on dit ça, une parole comme ça, c'est qu'on va se donner de l'humanité cette espèce d'image qui consiste à dire, bah oui, bah, l'humanité c'est peut-être ça. Et au fond, si ça n'était qu'un composé d'égoïsme, de mesquinerie, de jalousie, etc., ça fait lever la honte. J'ai honte d'appartenir à cette espèce-là. Et donc, ce qui se dessine en se disant, mais pourquoi...
Je veux pas être comme lui.
Je veux pas être comme lui, au sens où il existe tellement...
Ça veut dire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent adresser à d'autres hommes la stigmatisation de la honte.
C'est-à-dire que quelque chose, oui, que l'homme va recevoir comme une provocation cette image d'une humanité réduite à sa propre caricature. Mais nous-mêmes, quand on sent qu'on approche et qu'on est réduit à sa caricature, on peut se dire, mais enfin, dis, mais t'as pas honte alors qu'il existe être moi-même empêtré dans mes affaires mesquines alors qu'il existe de choses tellement belles à voir, à espérer, etc. C'est ça, la honte. C'est ce qui nous fait sortir. C'est une expérience de la dilatation, mais il faut en passer par là.
Alors on est dilatation ou décentrement de soi.
Eh ben les deux, c'est-à-dire c'est très beau quand il dit au fond c'est ça les personnages de roman. C'est-à-dire c'est pas des autofictions où on se dit ah ben ouais c'est vrai qu'on est tous mesquins, c'est vrai qu'on est tous jaloux, c'est vrai qu'on est tous envieux. C'est-à-dire cette espèce d'expérience qui consiste à partager cette misère de l'humanité. Un grand personnage de roman, au contraire, c'est celui qui nous emmène ailleurs. C'est ce que disait quand Marx dit si tout un peuple avait honte, il serait comme un lion. C'est-à-dire, il trace un devenir. Il trace un devenir. C'est-à-dire que c'est ça, tout ce qui est du côté de l'espérance un peu forte, vigoureuse, de ce que Rimbaud appelait la vigueur, au futur vigueur. C'est ça, c'est on a honte de l'humanité telle qu'elle est et on en appelle à des devenirs.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Frédéric Gros, Maximon Famé. Merci pour ce choix, Frédéric Gros, hymne acatiste. Oui. Pourquoi ce choix magnifique?
Pourquoi ce choix? Parce que ça fait partie de ces expériences de beauté, d'espèce de mélange comme ça, à la fois de sérénité extrême et d'élévation, qui font qu'on peut, on retombe sur notre sujet, mais avoir un peu honte de nos agitations minuscules. Et ça permet des retours à soi qui sont, voilà, qui permettent de prendre de la distance. Après tout, ça, voilà, c'est un peu ça, c'est ce que disait Deleuze, c'est à ça que sert l'art, quoi. Ça trace, alors là, on est en plein dedans, ça trace des devenirs. Et pourquoi est-ce que Deleuze mettait ça sous le label résistance? Parce que moi, j'étais un peu, je me dis, on va écouter Deleuze, abécédaire, résistance, on se dit il va parler comme ça de volonté révolutionnaire et il dit oui c'est la honte, là. Alors on se dit mais c'est pas possible la honte, enfin bon on a appris avec Nietzsche, avec Spinoza que c'était de la tristesse, que c'était mauvais, qu'il fallait laisser ça de côté et qu'il fallait la dépasser, sauf que voilà, il y a une manière d'être retenu au bord de la vulgarité, au bord de la facilité par l'expérience de la beauté. L'art, c'est une entreprise de faire honte. Ça nous fait honte au sens où ça nous retient au bord de la vulgarité et qu'à un moment, effectivement, peut-être qu'après avoir écouté ce qu'on a écouté, on peut se dire, bah ouais, non, je peux pas maintenant, j'ai trop honte de vouloir m'occuper de ces affaires mesquines, etc. C'est autre chose, voilà. Et cette expérience-là, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a défini ensemble tout à l'heure, se faire honte du côté de l'humiliation, du côté... Il y a un faire honte aussi qui nous élève et qui nous permet justement d'être... de pas être en complet accord avec nous-mêmes, avec le monde, et c'est ça qui permet qu'existe encore quelque chose comme un devenir, comme un futur, comme un désir.
Alors le futur, le désir du futur s'estompe dans notre horizon aujourd'hui, dans ces temps que nous traversons, et dans votre ouvrage, vous faites référence justement pas seulement à Gide Deleuze, mais aussi à Primo Levi, qui a été donc un survivant de la Shoah, et qui parle de la honte d'être un homme. Est-ce que la honte a toujours existé depuis l'aube de l'humanité, selon vous, Frédéric Gros, ou a-t-elle été fabriquée par les tragédies de notre histoire, et notamment du XXe siècle, qu'on a coutume de nommer le siècle de la honte?
Ouais, c'est un siècle qui nous fait honte à juste titre, et c'est très curieux, vous le rappelez, mais avec justesse, que Primo Levi, quand il se pose la question à lui-même, mais En sortant d'Auschwitz, quel est le premier sentiment qui m'a saisi? C'est-à-dire quand j'avais plus à me poser la question de la survie immédiate. Et il dit, au fond, c'est la honte. Alors c'est très curieux. Et en même temps, cette honte, la manière dont il articule, c'est quand même l'idée, et c'est en ça que c'est formidablement politique aussi, la honte. C'est social, c'est politique, c'est individuel. Je veux dire, c'est un monde, c'est plusieurs continents. Et en même temps, quand il parle de cette honte et de cette honte du monde, il cite un poème de John Donne, très connu, dont le début est « Aucun homme n'est une île ». C'est-à-dire, même ce siècle monstrueux, le 20e, je suis obligé de me dire que quand même j'y ai participé. Alors si on n'accepte pas d'avoir ce que j'appelle juste un peu honte quand même, parce que c'est ça, il ne s'agit pas de nous culpabiliser, de nous flageller, etc. Mais si on n'accepte pas d'accepter qu'on est malgré tout héritier de ce monde, qu'on a contribué même à le forger et qu'on en est solidaire, eh ben, si on rentre dans le monde des éhontés, satisfaits d'eux-mêmes, arrogants, etc. C'est pour ça que la honte, pour moi, c'est une espèce, c'est un produit très inflammable. C'est-à-dire, je suis prêt à la fois à dire, c'est terrible, ce poison de l'âme, il faut tout faire pour s'en débarrasser, parce qu'on a aussi tout le thème, on en a parlé, pas parlé directement ici, mais des viols, des incestes, de toutes ces hontes traumatiques qui détruisent détruisent des vies. Donc effectivement, que ces hontes-là, qui sont des hontes tristesse, il faut pouvoir les dépasser, et en même temps, il y a une certaine honte qui fait que qu'on reste un peu, qu'on reste un peu debout, c'est-à-dire que on continue à considérer qu'on est là pour quelque chose.
La honte n'a-t-elle pas changé de camp? On voit bien que durant ces dernières années, il y a des lueurs d'espoir qui s'allument. Vous y faites allusion à l'intérieur de votre livre et vous venez d'en parler. Il y a le mouvement MeToo, il y a un renouveau du féminisme un peu partout dans le monde entier. Il y a justement cette volonté de sortir de la honte et du silence, et vous faites remarquer à l'intérieur de votre ouvrage que il y avait des femmes qui, à l'aube des années 70, avaient eu le courage justement de ne pas avoir honte et d'aller porter devant les tribunaux les viols successifs qu'elles avaient endurés. Donc là, la honte, elle change de camp.
La honte change de camp, c'est-à-dire...
Donc ça, c'est positif.
Ah oui, c'est...
Une espèce de façon de ne plus avoir honte de ce qui nous faisait honte et qui devrait alimenter la colère.
Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que le propre de la honte, c'est effectivement de maintenir en soi une part de colère, mais quand cette honte-là, parce que vous avez un certain nombre de dispositifs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, elle l'a bien cherché, après tout, elle le voulait bien, elle a pas dit non plus, etc. Tous ces dispositifs qui font honte construisent une espèce de muraille qui fait que cette colère, elle ne peut s'exprimer qu'en devenant colère contre soi, haine de soi, etc. Alors qu'elle pourrait et qu'elle devrait se partager et devenir quelque chose comme une parole collective, trop longtemps, la part de colère est devenue précisément une espèce d'acide d'autodestruction. Alors que le fait d'en parler, de partager des expériences, font et opèrent cette alchimie, cette métamorphose de la honte qui fait qu'en s'articulant dans l'échange, dans la parole, eh bien, c'est de la colère qu'on partage et bientôt des actions, etc. Donc, effectivement, tout ce qui est du côté du néo-féminisme et aussi d'un certain nombre de pensées décoloniales très fortement décriées.
Vous en parlez aussi.
Bah oui, parce que c'est vrai.
Autre foyer d'espoir, le mouvement Black Lives Matter.
C'est la une du Figaro magazine, quoi. On endoctrine vos enfants, l'antiracisme, etc.
Enfin, alors justement, comment comprenez-vous la colère que provoque dans une partie de l'opinion, justement, ces foyers d'espoir pour ne plus avoir honte de soi? Alors qu'il s'agit de faire des investigations et des recherches historiques sur les origines de la colonisation, sur l'inégalité des êtres et le racisme.
Alors, comment est-ce que je la comprends de plusieurs manières? D'abord, il y a un sérieux problème générationnel, c'est-à-dire que ce qui s'esquisse quand même, on a parlé de guerre des races, on a parlé de guerre de lutte des classes, etc., mais il y a un côté guerre des générations aujourd'hui qui s'affirme de plus en plus. C'est vrai que tous ces mouvements-là sont très fortement politiques. Mais dès qu'on dit politique, on dit qu'on procède par généralisation et on peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'il y a des dérives.
Ils sont politiques au sens de la recherche de la compréhension d'une vérité qui a été occultée pendant longtemps.
Je veux dire par là qu'on recherche une certaine efficacité et qu'on va du côté du slogan. Et que bien sûr, ce slogan peut être un petit peu, si vous voulez, extensif. Je veux dire, mais alors comment est-ce que je comprends la réaction maintenant contre tous ces discours? Eh ben, comme une peur d'avoir à interroger sa propre monstruosité et de se dire, bah oui, c'est vrai que je fais partie d'une génération qui a supporté ça, la peur même, la terreur d'apparaître comme un privilégié et de vouloir continuer à se dire qu'après tout, on fait partie de la grande génération qui a ouvert les droits et il faudrait maintenant qu'on nous remercie. Le problème, c'est que les générations actuelles ne nous remercient pas. Alors qu'est-ce qu'on en fait? On leur dit, mais vous êtes des ingrats, vous devriez nous remercier, etc., vu le monde qu'on vous laisse, qui est quand même dans un état un peu pitoyable. Donc voilà, je le prends comme ça, mais après ce sont des jeux d'écume, même si ça occupe beaucoup de monde. Mais en tout cas, moi ce que je sens, c'est dans une certaine, dans une certaine frange de génération, le refus, d'entamer ne serait-ce qu'un petit peu leur bonne conscience en se disant, bah oui, après tout, oui, on peut avoir un peu honte de son histoire. Après tout, c'est ce que disait Carlo Ginzburg, un immense historien qui disait, le pays qu'on aime, c'est le pays dont on a honte aussi. Ah oui, oui, vous pouvez pas.
Allez m'expliquer. Le pays qu'on aime, c'est celui dont on a honte aussi. L'important, c'est le aussi.
Oui, mais je crois que c'est moi qui les rajoute.
Donner à ces propos. Bon, aujourd'hui, on a bien vu hier soir, il y a eu la primaire de la droite, il y a eu des thématiques de sécurité, on a beaucoup parlé de l'immigration, la figure de l'étranger avec un grand E devient prédominante dans la scène nationale politique. De quoi a-t-on honte? Et qu'est-ce qui fait honte aujourd'hui? Et quelle est la place révolutionnaire de la honte, selon vous, Frédéric Gros?
Alors, selon moi, tout tient. Alors, vous allez me dire, c'est une distinction de concept, etc. Mais enfin, j'essaye quand même. Tout tient dans la différence entre la honte et la culpabilité. Je dis pas qu'il s'agit de se sentir coupable, ni de Vichy, ni des déportations, etc. Parce que ça, c'est de l'hystérie, c'est une manière un peu facile de dire oui, je me sens coupable de l'esclavage, etc. C'est pas ça. Je parle pas de culpabilité, mais je dis juste un peu honte, c'est-à-dire accepter, oui, qu'on y a été et qu'on y est encore un peu pour quelque chose. Si on n'accepte pas, ce que je propose, c'est juste d'introduire cette honte-là, qui encore une fois n'est pas la honte tristesse dont on parlait, mais qui est une honte beaucoup plus positive, comme le minimum syndical du sujet politique. Oui, j'ai un peu honte de mon pays et du fait, parce que sans ça, si vous voulez, si on est dans la fierté à tout craint, on se raconte des histoires et on refuse de se transformer, parce qu'en même temps, ces expériences de honte, il y en a beaucoup, et vous avez eu raison de le souligner, qui sont absolument destructrices, mais dans notre vie, on peut remercier certaines personnes aussi de nous avoir fait un peu honte par rapport à nos arrogances, par rapport à l'idée qu'on se faisait un peu de nous-mêmes, etc. Ben voilà, et de la même façon, dans le rapport qu'on a à son propre pays, c'est pas massif, si vous voulez, c'est une manière d'accepter pour aller plus avant.
Donc la honte peut être constructive.
Oui,
aussi réparatrice, elle peut être aussi interrogative par rapport à son soi.
Et ouais, tout est là, tout est dans le destin de la colère qui gît au milieu de la honte. Est-ce que cette colère va se transformer en colère destructrice de soi, ou est-ce qu'elle va s'ouvrir à la dimension d'une construction collective? Parce que, après tout, c'est Aristote qui l'a dit il y a très longtemps, là, dans la colère, il y a l'idée d'une demande de justice, c'est pas de la haine, la colère.
Votre livre, Frédéric Gros, est important. Aujourd'hui, le lire, c'est nous donner des armes de réflexion théorique, politique, intellectuelle, philosophique, mais c'est aussi d'essayer de penser notre propre situation et la manière dont on la nomme. Je vais vous citer à la fin de votre ouvrage, vous écrivez ceci. Quand on veut définir la réalité, on parle de matérialité, de résistance, de cohérence, d'efficience, etc. Alors, on rate ce petit composant inaperçu, trop souvent passé sous silence, cet ingrédient discret mais capital. Le principe d'acceptation, quand on dit d'une chose, d'une situation, qu'elles sont réelles, il faut prêter l'oreille au petit discours d'en dessous qui susurre « Allons, ne te fatigue pas, arrête de lutter, c'est juste la réalité. Il faut s'y résigner, s'y conformer, endurer, souscrire, cesse de te révolter. » C'est ça qu'on nous susurre toute la journée.
C'était dans ce qu'on appelle dans ce qu'on appelle la réalité, souvent il y a ce petit discours, c'est-à-dire dire de quelque chose c'est la réalité, ça veut dire en même temps il faut l'accepter. Et le propre de la honte, c'est précisément de définir une zone d'inacceptable. C'est pas parce qu'une chose est réelle qu'il faut l'accepter, et on doit parfois en avoir honte. Voilà, on doit et en avoir honte, c'est refuser de l'accepter comme telle.
Donc ne plus avoir honte, c'est d'essayer de comprendre la puissance éthique que nous indique le fait même d'être vivant, parmi les vivants.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut il faut trouver ces sources de dynamisme, de création, et parcourir la honte dans toute sa diversité, parce que c'est vrai que je raisonne en philosophe, mais je parle beaucoup de littérature, parce que c'est, je veux dire, la philosophie a été très pauvre à définir la honte, finalement. Quand on essaye de réfléchir dans sa profondeur, dans son extraordinaire diversité à ce sentiment, eh ben oui, on a des gens comme Annie Ernaux, comme James Baldwin, des gens comme Primo Levi, mais aussi comme Virginie Despentes. C'est dans la littérature qu'on trouve les expressions les plus fortes, parce qu'elles sont incarnées de la honte beaucoup plus que dans des constructions conceptuelles abstraites.
Dernière question, Frédéric Gros, le devenir de la honte ou l'espoir de la honte ?
Eh ben tout ça tient à nous, tout ça tient à la manière dont on va pouvoir faire quelque chose et faire quelque chose de cet élément de colère, parce que le problème après, c'est que cette colère ne doit pas devenir de la haine, voilà. Être en colère, c'est se laisser porter par des demandes de justice, ne pas considérer que le monde doit être accepté parce qu'il est réel. Et voilà, entrevoir ça dans un destin un peu collectif. Donc oui, la honte du monde aujourd'hui, ça peut encore marcher. Après tout, c'était le message de Greta Thunberg. Il y avait ça aussi, de dire, mais enfin, vous n'avez pas honte, comment osez-vous, quoi. C'était sa parole, c'est comment osez-vous. C'est-à-dire, on vient d'avoir un congrès là sur un congrès climatique, bon, résultat zéro, comment est-ce qu'ils osent?
Et ce qui se passe aux frontières de la Biélorussie en ce moment, ça nous fait honte à nous, c'est la honte du monde, pour reprendre les termes de Primo Levi.
Oui, oui, c'est la honte. Alors Primo Levi a cette parole parce qu'il s'aperçoit bien que, en même temps, si vous voulez, s'il faut que je dise, et comme message, si je dise, mais ayez honte, c'est quand même un peu terrible, parce qu'on se dit, mais enfin, arrêtez. Mais Primo Levi a cette parole. Quand il dit, au fond, la honte comme honte du monde, est-ce qui nous immunise un peu? Ça nous immunise. C'est-à-dire, ça nous permet de ne pas être complètement passif et de réagir. On est immunisé contre l'horreur, c'est-à-dire qu'on sait la détecter et se battre contre elle. Et pas se dire, mais après tout, c'est comme ça, ça a toujours existé, etc. Non. Un peu honte quand même.
Merci infiniment Frédéric Gros. Je rappelle que votre livre remarquable s'intitule « La honte est un sentiment révolutionnaire » et qui vient de paraître aux éditions Albin Michel.
Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Someone love me, 'cause I feel like I could ask.
Et c'est avec Beautiful Life de Michael Kiwanuka que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Maxime Goudard, qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Iris Vertanessian, à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux et à Juliette Medevielle qui signe aujourd'hui la réalisation de cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka qui va commencer sa semaine de Very Good Trip.